bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir trouvé le chemin des rencontres. Nous sommes réunis aujourd'hui donc pour entendre Mouafak Hassan, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est déjà intervenu, donc je pense que c'était en 2017 ou 2018, donc en plein moment de la guerre en Syrie, donc pour nous en exposer un peu tous les motifs et toutes les caractéristiques. Et aujourd'hui, donc, il est là pour parler d'un sujet qui n'est pas très éloigné, parce qu'en fait, il a trait beaucoup en fait aussi à la géopolitique, qui est le problème de la crise de l'approvisionnement en gaz. Comment en sommes-nous arrivés là et comment s'en sortir? En fait, c'est le thème qui a été retenu pour son intervention. Donc, un bref rappel pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, de qui est Mouafak Hassan. Mouafak Hassan est syrien. Donc, il a grandi en Syrie. En fait, dans quelle ville tu as grandi?
Dara,
voilà. Dans le sud du pays, et puis il est parti à Londres, en fait, à Imperial College, où il a fait un bachelor, en fait, et un master of science in engineering, en fait, petrol engineering, donc l'ingénierie du pétrole, qu'il a après complété, donc, à Paris. Et je crois que s'il est venu à Paris, c'est parce qu'il a rencontré une Française, hein, voilà, par un doctorat en géologie, donc... Et puis, il a commencé sa carrière. Donc, en fait, il était ingénieur pétrolier en Syrie. Après, il est rentré dans le groupe Total, dans lequel il a passé 16 ans, occupant différentes positions managériales. Et puis après, il a exercé donc consultant, senior advisor, donc en fait aussi bien pour la Banque mondiale que pour Schlumberger et que pour la Bird, en fait, pour un tas d'organismes internationaux donc, ou d'entreprises. Il a à un moment donné donc, en fait, été basé en Jordanie pour développer donc, pendant plusieurs années donc, un projet d'exploration de gisements. Et donc aujourd'hui, donc, après 35 ans évidemment, donc, de carrière dans l'industrie pétrolière, Mouafak Hassan a une vision complète évidemment de la situation du gaz, puisque c'est aujourd'hui donc plus du gaz que du pétrole dont on va parler, mais Mouafak fera effectivement à la fois le lien et présentera la différence donc entre ces deux énergies, sachant donc que ce sont des sujets qui sont à la fois techniques, économiques, géopolitiques, assez complexes, et donc Mouafak va certainement donc nous présenter avec le plus de clarté possible. Et évidemment, donc, après cette intervention, donc, vous aurez tout le loisir de lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et nous avons en fait la chance d'avoir ici la possibilité de projeter, ce qui n'est pas évidemment donné dans la prairie. Donc Mouafak nous présentera le dessous des cartes géopolitiques qui montrent donc, comment les Russes en fait, ont tissé leur toile pour devenir quasiment donc, nos fournisseurs obligés de gaz. Voilà, mais d'abord la première question, Mouafak, est une question technique. Est-ce que tu peux nous dire comment se forme le gaz, en fait, voilà, et pourquoi y a-t-il effectivement des réserves de gaz? Quel est le rapport entre le gaz et le pétrole? D'abord, première explication technique, s'il te plaît.
Merci Arnaud, merci à tout le monde, merci d'être là. J'espère que le sujet vous intéresse, sûrement si vous êtes là, le sujet vous intéresse. Et j'espère que votre débat m'a aidé aussi d'améliorer mes idées et d'aller encore plus loin sur le sujet. Voilà. En fait, le gaz est à peu près comme le pétrole, sauf le gaz dans l'histoire géologique a subi en fait une pression, une température est plus élevée que le pétrole. Les deux ils viennent de la même matière organique. Quand la température est très élevée dans le sous-sol, la pression très élevée, les molécules en fait de pétrole qui se forment d'abord se cassent, ils forment des produits plus légers qui est le gaz. Donc c'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence. Donc quand on cherche du gaz, c'est-à-dire quand on fait l'exploration pour le gaz, c'est exactement la même chose que le pétrole. Et on le produit par les mêmes procédés. Alors après la production, on change les choses, le traitement, le transport et tout ça. Donc, on va en parler
un petit peu après. Bon, et le gaz, il y a différentes formes de gaz, plus ou moins lourds.
Voilà. Il y a une différence, en fait. Il y a quelque chose de très spécifique sur le gaz qu'il faut absolument mettre toujours dans votre tête, que le gaz, sous la pression normale et la température normale, occupe à peu près 1000 fois le volume de l'huile. C'est-à-dire, ou bien un litre, par exemple, de gaz liquéfié, hein, à une température de moins 170 degrés centigrades, quand il s'évapore, quand il est regazifié, ça devient 1000 litres. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. Ça complique d'abord le transport de gaz. Le transport de gaz devient extrêmement difficile et extrêmement coûteux aussi.
On va en parler en fait après du transport. Et alors justement, parce qu'on entend beaucoup parler de beaucoup de choses, et quand on parle du gaz de schiste, est-ce que c'est un gaz spécial ou c'est simplement un gaz qui est piégé dans une roche particulière ?
Non, c'est un gaz tout à fait le même gaz que le gaz naturel, mais sauf il est piégé dans des gisements qui s'appellent du schiste. C'est une sorte d'argile avec un petit peu de matière organique. Cette argile-là n'a pas suffisamment de perméabilité pour permettre au gaz d'être produit comme le pétrole avec des puits normaux. Donc on le produit avec des puits horizontaux, avec une fracturation de la roche sous pression pour tout simplement augmenter la superficie d'échange entre la roche et le puits, et comme ça, on produit plus de gaz. Mais le gaz qui est produit à partir du schiste est exactement la même chose.
Exactement le même.
Il y a toujours une différence de composition de gaz, même d'un champ de gaz à l'autre. Hein. C'est pas toujours le même gaz. Il y a de gaz très léger et de gaz un petit peu plus lourd.
Alors, où trouve-t-on du gaz dans le monde ? Quels sont les pays producteurs ou sont les grandes réserves ?
Ben, le gaz, aujourd'hui, les pays qui possèdent le maximum, en fait, les plus grandes réserves de gaz dans le monde, c'est d'abord la Russie, ensuite l'Iran, le Qatar et le Turkménistan. Ça, ce sont les quatre pays qui possèdent énormément de gaz.
Voilà. C'est quoi ? C'est 80% de la production
Alors,
mondiale ?
Ça, c'est du gaz naturel.
Du gaz naturel.
Mais il y a du gaz qui est produit aussi avec le pétrole. Par exemple, l'Arabie Saoudite a pas mal de gaz qui est en fait utilisé localement en Arabie Saoudite. C'est le gaz qui est produit avec le pétrole. Quand on sépare le gaz du pétrole, et soit on l'utilise sur place, ou bien on le comprime pour l'envoyer ailleurs à un marché bien déterminé. Mais encore, utiliser le gaz, ce qu'on appelle le gaz associé avec le pétrole, le transport de ce gaz-là et le traitement coûtent encore plus cher que le gaz naturel.
D'accord. Donc ce qu'il faut retenir, c'est avant tout, c'est la Russie est le premier producteur mondial, suivi de l'Iran
non,
et du Qatar.
La Russie n'est pas le premier producteur mondial. Il est le premier pays dans les réserves.
Ah.
Mais le premier pays, en fait, dans la production de gaz dans le monde, c'est les États-Unis aujourd'hui. C'est les États-Unis qui produisent beaucoup plus, en fait, que la Russie de gaz. Mais 90% du gaz qui est produit aux États-Unis, il est utilisé localement aux États-Unis. Et à peu près une dizaine de pourcents, ils sont liquéfiés et ils sont envoyés en Europe.
OK. Donc là, c'est quasiment un marché intérieur.
C'est un marché intérieur.
Bon, donc, mais sinon, l'endroit où sont les réserves, en fait, et les pays producteurs ne sont pas forcément les pays consommateurs. Donc, comment on fait pour transporter le gaz ?
Alors, on transporte les gaz. Il y a deux manières de transporter les gaz. Quand il y a une possibilité de mettre un gazoduc, un pipeline de gaz, on le fait normalement. C'est le moyen le moins cher de transporter du gaz. Mais il ne faut pas passer, il ne faut pas que le gaz soit très très éloigné. Il ne faut pas que le pipeline traverse des mers qui sont souvent profondes ou bien des zones qui sont extrêmement actives sur le plan sismique, comme par exemple l'Asie Pacifique, entre l'Indonésie et le Japon, c'est une zone où il y a énormément de tremblements de terre. D'abord, la mer est profonde. On ne peut pas mettre de pipeline. Alors, tous les gaz, dans ce cas-là, le gaz est transporté en forme liquide, qui s'appelle GNL, gaz liquide liquéfié. Ou en anglais, c'est LNG. LNG. Donc, pour liquéfier le gaz, comme on ne peut pas utiliser, en fait, on ne peut pas construire de pipeline pour transporter les gaz, on liquéfie le gaz pour réduire, bien sûr, le volume. Et c'est liquéfié à une température de moins 170 degrés. Alors, il y a, normalement, ce sont des usines extrêmement complexes, avec 3 ou 4 phases de refroidissement pour arriver à cette température-là. Et après, on transporte les gaz dans ce qu'on appelle les mitaniers. Ce sont des tankers avec à peu près 4 ou 5 réservoirs sphériques remplis de gaz liquéfié. Ils sont extrêmement bien isolés aussi pendant le voyage parce qu'il y a une partie de gaz qui s'évapore petit à petit. Ils ne sont pas refroidis sur le bateau, le gaz. Ce sont les cuves, en fait, sur là, qui sont extrêmement bien isolées. Et le gaz qui est, en fait, qui s'évapore pendant le transport, on l'utilise dans les moteurs de bateaux pour faire marcher le mitanier.
OK. Et quand on arrive à destination, le gaz est de nouveau
retransformé. Il faut encore des installations complexes pour recevoir le gaz, le stocker probablement pendant 2 semaines, 3 semaines, et après le regazifier et le mettre dans des pipelines intérieures à l'intérieur du pays pour l'industrie, pour le résidentiel et pour l'électricité ou autre chose.
D'accord, on parlera des prix tout à l'heure, mais objectivement, donc, le coût du transport est beaucoup plus élevé quand c'est du GNL. Et quel pourcentage de la production mondiale, en fait, est acheminé par pipeline et par GNL?
En fait, aujourd'hui, à peu près, d'abord pour le coût des transports, le transport de GNL ou de gaz conforme de GNL, ou bien en pipeline pareil, coûte au moins 10 fois plus que le pétrole. 10 fois plus que le pétrole. Pourquoi? Parce que le gaz est transporté sous une pression très élevée, ce qu'on appelle 150 bars ou quelque chose comme ça, 150 fois la pression atmosphérique, pour mettre le maximum de gaz dans la pipeline. Donc, il faut des pipelines extrêmement épais, l'acier coûte cher, il faut beaucoup de compression, il faut beaucoup de turbines pour comprimer le gaz à cette pression-là pour qu'il passe dans la pipeline. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est...
Deuxième chose, quelle part de la production mondiale est acheminée par pipeline et quelle part par le GNL?
Aujourd'hui, il y a à peu près peut-être 80% de gaz qui est transporté par pipeline et 10% qui est transporté par des mitaniers. D'accord. Alors, tous les pays qui utilisent le gaz localement, comme les États-Unis, comme en Russie, à l'intérieur de la Russie, en Arabie Saoudite, le gaz est transporté, bien sûr, par des gazoducs, hein, ou bien par des pipelines.
D'accord. OK. Alors, avant de voir d'où vient notre gaz en France et en Europe, globalement, à quoi sert le gaz? Comment consommons-nous le gaz?
Le gaz sert à produire de l'énergie. Alors, il y a 3 secteurs qui sont très importants pour l'utilisation du gaz. C'est le secteur industriel, le secteur résidentiel et le secteur électrique. Okay. Donc, c'est à peu près le pourcentage d'utilisation dans chaque secteur est à peu près tiers. Pardon, c'est le transport résidentiel et industriel. Voilà, transport résidentiel, industriel.
OK. Et ça, c'est stable, en fait, par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 20 ans. Est-ce qu'on utilise plus de gaz dans tel ou tel secteur ou c'est une répartition qui est stable?
C'est à peu près, ça tourne dans tous les pays développés, bien sûr. Les pays développés, comme l'Europe, les États-Unis, ou bien une partie de la Russie, la Chine, c'est tiers.
OK. Et est-ce qu'on consomme beaucoup plus de gaz aujourd'hui qu'on en consommait il y a 10 ans? Est-ce que globalement...
Oui, parce qu'en fait, on a essayé toujours d'augmenter la proportion de gaz dans le mix énergétique dans pas mal de pays pour réduire la nuisance pour l'environnement. quand on brûle le gaz naturel, on produit moins de CO2, le gaz carbonique. OK? Parce que les molécules en fait de gaz sont plus légères. Il y a moins de molécules de carbone dans le gaz que le pétrole. Or, quand on brûle, par exemple, du fuel lourd, on produit beaucoup de CO2 et on produit beaucoup aussi
des particules fines. Donc, il y a un petit avantage environnemental au gaz par rapport au pétrole.
La tendance aussi, il y a quelque chose de très important dans les pays développés, que le gaz est utilisé énormément pour produire l'électricité. Ça, c'est-à-dire, on a des turbines pour faire de l'électricité qui ont une taille très, très faible hein, par rapport à d'autres turbines, par exemple vapeur ou quelque chose comme ça. Donc, le gaz arrive, on injecte ça dans la turbine, on peut mettre les choses en route très rapidement et on peut arrêter, en fait, la turbine très rapidement. Donc, le gaz donne cette facilité, en fait, dans la production de l'électricité. Et l'électricité, c'est en Europe, le gaz est essentiellement utilisé pour l'électricité, en fait, pour générer l'électricité. C'est pour cette raison-là, le prix du gaz est indexé sur le prix, le prix d'électricité est indexé sur le prix du gaz.
D'accord. Alors, on va parler effectivement de la formation des prix, mais d'abord, alors aujourd'hui, en Europe et en France, d'où vient notre gaz ?
Alors, il y a plusieurs. D'abord, l'Europe, au sens large, produit un peu de gaz, produit à peu près 30% de gaz qui est consommé en Europe. Ce gaz-là.
En Norvège ? Non ?
De la Norvège, oui. Exactement. De la mer du Nord ou la mer de. Non, non, la mer norvégienne. La mer norvégienne, le Norvège, en fait, donne à l'Union européenne pratiquement 30% du gaz qui est consommé dans l'Union européenne. La Russie est un fournisseur de gaz à l'Europe absolument énorme depuis toujours. La fourniture de gaz représente aussi entre 35% à 45%. Ça dépend de l'année. Hein. Et ça dépend aussi de l'activité économique en Europe. Et il y a un petit peu de gaz qui arrive aussi par ça. Alors, le gaz qui est fourni par la Norvège et par la Russie arrive en Europe par des gazoducs.
D'accord.
Okay. Mais il y a à peu près une vingtaine, 20% de gaz qui arrive en Europe par des métalliers aussi. Surtout en Espagne, au Portugal, en Angleterre et en France.
Il y a du gaz algérien, non ?
Il y a du gaz algérien qui est transporté par des métalliers depuis toujours. Il y a aussi deux pipelines de l'Algérie vers l'Europe. Un pipeline qui va fournir du gaz à l'Espagne et l'autre à l'Italie, qui marche toujours, bien sûr. Mais il y a beaucoup de métalliers. En fait, l'Algérie est un des acteurs importants pour la fourniture du gaz à l'Europe.
OK. Bon, on parlera justement de la crise qu'on connaît juste très bientôt. Mais comment en fait se passent les relations entre les vendeurs et les acheteurs de gaz ?
Voilà. Alors, il y a deux choses qu'il faut savoir. Le commerce de gaz, c'est un commerce qui est réglementé. Parce que quand on chauffe dans des pays comme les États-Unis, aux États-Unis, c'est le seul pays dans le monde, et un petit peu en Angleterre aussi, le gaz est totalement. Le trading de gaz, ou bien le commerce de gaz, est déréglementé. Parce qu'il y a des pipelines partout, les gens achètent en gros de gaz qui est produit et après ils font la distribution. Ça, c'est le marché américain. C'est très spécifique. Donc, en fait, aussi, il a un impact sur le prix du gaz dans ces pays-là. Pour l'Europe, c'est autre chose. L'Europe, il y a un marché européen qui est absolument énorme. D'ailleurs, c'est le marché européen, c'est le plus gros marché à l'importation du gaz naturel dans le monde. Et quand on achète à la Russie, ça veut dire que la Russie va développer un champ de gaz pour un marché spécifique qui est l'Europe occidentale, par exemple. Donc, dans ce cas-là, on commence à négocier un contrat de vente de gaz. Le contrat de vente de gaz est extrêmement important. On ne peut pas commencer à développer le gaz avant de signer un contrat pour un marché bien déterminé. Parce que le marché bien déterminé, mettons le marché européen, l'Europe va construire des installations industrielles ou bien pour la distribution de gaz. Donc, sur le plan économique, il faut du gaz à très très long terme. Le fournisseur de gaz, comme par exemple la Russie, il faut avoir suffisamment de réserves de gaz pour fournir ce marché spécifique. Donc, on a un producteur de gaz d'un côté qui est la Russie, et on a de l'autre côté un marché européen qui est l'importateur de gaz. Alors, donc, le prix est fixé entre les deux par des contrats, et normalement, ce sont des contrats à long terme. Il y a à peu près une quinzaine d'années, le contrat était entre 10 à 25 ans de contrat. Le contrat est extrêmement sophistiqué, extrêmement rigide. De temps en temps, moi, je connais des contrats qui étaient négociés pendant 4, 5 ans. Parce que le problème de prix, de fixation de prix dans le contrat est absolument crucial. Et donc, ça dépend du pouvoir du producteur en face d'un consommateur, d'une part. Et deuxième chose, ça dépend du coût du projet total, de la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne gazière. Le développement des champs pétroliers, le transport de gaz, la réception de gaz dans le pays consommateur, ensuite la distribution jusqu'à l'utilisateur final. Toute cette chaîne-là, il faut qu'elle marche, parce que s'il y a une partie de la chaîne ne marche pas, toute la chaîne s'arrête. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne gazière, qui est une chaîne extrêmement rigide. Ce n'est pas le cas pour le pétrole. Le pétrole, on le produit, on peut le mettre dans des tankers. Il y a beaucoup de tankers et on se promène avec un tanker, même en étant en train de transporter du pétrole dans les tankers, on peut négocier le prix à un marché bien déterminé.
Donc, et changer de client et changer de route, voilà, si on trouve un meilleur
prix. Exactement. Donc pour les pétroles, c'est toujours un marché, ce qu'on appelle un marché spot. C'est l'offre et la demande qui déterminent en fait le prix de brut. Tous les jours, on voit par exemple en bourse une cotation pour le prix de baril. Parce que c'est totalement déréglementé. C'est très facile à transporter et ça ne coûte pas très cher. Un tanker qui est rempli de 2 000 000 de barils, par exemple, peut se promener en mer pendant un mois ou deux mois avant de vendre les rechargements. De temps en temps, on freine en fait les déchargements, hein, parce qu'on voit que le prix de marché, il est en train d'augmenter. Donc on essaye de retarder, si vous voulez, l'horizon pour avoir un prix meilleur.
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le prix du gaz est indexé sur le prix de l'électricité, alors même que tu dis que c'est des...
Non.
Le prix de l'électricité est indexé, d'accord, sur le prix du gaz. OK, le prix du gaz, en fait, il est librement fixé, donc, en fait, entre acheteur en fait,
entre
et vendeur.
Acheteur et producteur.
Acheteur et producteur, OK. Et après, il y a le problème du découplage. Alors, on va en parler. Donc, aujourd'hui, enfin, jusque-là, tu es en train de nous expliquer quel était le business, en fait, donc, quand il n'y avait pas de problème et que tout se passait bien sur un marché économique avec des règles sur le long terme. Là-dessus, en fait, arrive la guerre en Ukraine. Donc, les Russes, qui quelque part trouvent en fait un certain nombre de bonnes raisons, donc pour réduire en fait notre approvisionnement en gaz. Là maintenant, je pense qu'on va rentrer dans la présentation géopolitique pour laquelle tu vas t'appuyer sur des cartes pour montrer que depuis très longtemps, alors déjà Poutine et peut-être même en fait antérieurement l'URSS, donc en fait a voulu rendre l'Europe complètement dépendante de son gaz et s'en servir comme une arme politique.
Oui. Alors, en fait, le commerce d'énergie, l'énergie, c'est pas quand on vend de l'énergie, comme de gaz, de pétrole, c'est pas des pommes de terre qu'on vend ou bien des oranges. C'est une matière extrêmement stratégique et extrêmement importante et qui peut être utilisée pour des raisons stratégiques entre les pays. Alors, l'Europe a été toujours fournie depuis pas mal de temps, depuis les années 70, par l'Union soviétique à l'époque. Alors, vous avez des pipelines qui arrivent de la région qui s'appelle Yamal aujourd'hui. Yamal, c'est une région gazière très importante. et qui est au nord-est de la mer de Barents. Donc avant le gaz...
Vers la Sibérie à peu près, non ?
Dans le Sibérie, c'est la Sibérie occidentale.
C'est la Sibérie occidentale.
Donc en fait, aujourd'hui, le gaz qui arrive à l'Europe, essentiellement, il vient de cette région-là. C'est une région très très riche de gaz, avec des champs absolument énormes de gaz, qui peuvent fournir du gaz pour les 30 ans qui viennent sans problème. Avant, le gaz arrivait en fait dans d'autres lieux, aussi à l'ouest de la Sibérie et aussi de Turkménistan, à travers du pipeline qui traversait l'Union soviétique et arrivait en Europe. Alors, il fallait toujours passer par la Russie pour fournir l'Europe en gaz ou bien en pétrole. Alors, vous avez ça, ce sont les réseaux pour les gaz. Vous avez un réseau qui s'appelle
Yamal.
Ça, c'est un pipeline ou bien un gazoduc qui était construit à la fin des années 90, qui était terminé à peu près en 99. Et Yamal arrive, en fait, via la Biélorussie, la Pologne, et ensuite elle arrive en Allemagne. Alors, aujourd'hui, on a fait une dérivation pour éviter ces pays-là. Il faut arriver en Allemagne. On a fait une dérivation en amont pour fournir des gaz qui étaient construits dans les mers Baltiques. Il y a deux gazoducs dans les mers Baltiques. À mon avis, vous avez vu tout ça, North Stream 1 et North Stream 2. Ce sont des énormes gazoducs qui font à peu près 1,5 mètre de diamètre qui reçoivent le gaz au bord de la mer Baltique et ils vont dans la zone souvent internationale pour arriver finalement en Allemagne ici.
Mais quel était l'avantage stratégique de remplacer en fait l'acheminement par la Biélorussie et la Pologne ?
Aussi, le gaz arrivait aussi par d'autres lignes qui s'appellent Brotherhood. Ça, ce sont la fraternité, Zeus, ça ce sont des noms totalement soviétiques qui arrivaient avant et qui étaient toujours en marche jusqu'à maintenant. Alors, l'avantage quand on fait une dérivation, comme la Russie avait un problème avec ces pays-là et avait un problème avec l'Ukraine, ils voulaient arrêter l'approvisionnement de l'Europe à travers ce pipeline-là, ils ont construit en avant la dérivation vers North Stream 1 et 2, qui traverse la mer Baltique. Alors, la capacité de livraison, la Russie, en fait, vend à peu près 140 milliards de mètres cubes de gaz à l'Europe par an. 140 milliards. De temps en temps, c'est 135, de temps en temps, c'est 150. Ça dépend de l'année. Alors, ces pipelines, ils ont une capacité, seuls les deux, 110 milliards. C'est absolument énorme. 110 milliards de mètres cubes passent chaque pipeline à une capacité de 55 milliards. Alors, elle remplace énormément de choses. Alors, le reste, à l'époque, arrivait aussi par Yamal ou bien par d'autres pipelines pour compléter l'approvisionnement de l'Europe en gaz jusqu'à 150 milliards de mètres cubes par an. En 2016, ou 2015-2016, l'Europe a refusé la construction d'un pipeline qui arrive dans la mer Noire, qui emmène le gaz au port gazier sur la mer Noire, et ensuite qui traverse vers la Roumanie. Parce que ce pipeline qui était proposé à l'époque était la propriété de Gazprom, qui est le bras droit de Poutine, en fait. Et c'est le plus... grande société gazière du monde, Gazprom, en capacité de production et sur le plan financier aussi. Donc l'Europe a refusé parce que Gazprom était le propriétaire des champs de gaz et le propriétaire de transport.
Alors, ce qui n'est pas la même chose, excuse-moi, Nord Stream n'appartient pas à Gazprom.
Non, Nord Stream appartient à Gazprom à 51%, les deux pipelines, et 49% appartiennent à la France, l'Italie, l'Allemagne et tout ça, surtout l'Allemagne. L'Allemagne possède, je crois, quelque chose comme 30% des parts dans Nord Stream 1 et 2. Alors, c'est pas pareil, mais c'est encore Gazprom qui décide, parce que Gazprom a 51% et ils sont aussi le propriétaire de toutes les installations en amont et le champ de gaz aussi. Donc Gazprom, mais dans le contrat, normalement, Gazprom, ne peut, on va venir sur ça, il ne peut pas arrêter la livraison de gaz comme ça. Ce n'est pas quelque chose de très facile. Hein. On va parler de contrat un petit peu plus tard. Mais pour terminer ici, en 2016, Poutine a exigé ou a négocié avec Erdogan hein, de Turquie un gazoduc de gaz qui arrive dans la Thrace orientale. Ce pipeline, qui peut être doublé aussi comme Nord Stream, a une capacité, il peut aller jusqu'à 60 milliards de mètres cubes par an. Aujourd'hui, on peut transporter quelque chose comme 15 milliards de mètres cubes. Mais il suffit simplement d'augmenter la pression du pipe pour qu'elle transporte le double. Et donc, en fait, on voit, avec la livraison de Nord Stream, qui est à peu près 110 000 milliards de mètres cubes par an, et si vous avez 40 milliards dans ce pipeline, vous aviez une capacité totale d'approvisionnement de 150 milliards. Ce que le Kremlin essaye de faire pour éviter l'utilisation de mots de Poutine, mais c'est essentiellement Poutine, est de prendre en fait l'Europe en tenaille. Il a toujours travaillé sur ce problème-là. Prendre toujours l'Europe en tenaille et protéger le marché européen de gaz pour la Russie essentiellement. Mais il ne pourra pas faire la même chose contre le gaz liquéfié, bien sûr. Mais sur le pipeline, il dit, vous avez besoin de 140 milliards, moi je peux le fournir seul à travers Nord Stream et à travers ce qu'on appelle le Turk Stream.
Parce qu'il est en activité, ce pipeline.
Il est en activité, et en fait, il rejoint un pipeline qui traverse la Grèce, et ensuite le nord de l'Albanie, ou bien en Grèce, mais au nord de l'Albanie, et il se termine en Italie. Et après, en Italie, il y a une partie qui est posée en mer, et après, il rejoint le réseau européen du gaz. Parce que tous ces pays-là, l'Italie, la France, l'Allemagne, ils sont connectés entre elles par des pipelines. Hein. Voilà. Donc, l'idée toujours de Poutine est fournir le maximum de gaz pour saturer le gaz en Europe, le marché européen et empêcher d'autres de fournir du pétrole. Alors, il y a d'autres pays qui fournissent. Alors, est-ce que je peux parler du problème géopolitique de
Oui, je pense que c'est important, effectivement, que tu puisses dire. Donc, finalement, tous les événements, toutes les guerres en Tchétchénie, en Géorgie, en Ukraine, ont été finalement, et même en fait en Syrie, quelque part en fait provoquées par ces besoins, effectivement, de contrôler l'approvisionnement en pétrole et surtout en gaz.
Souvenez-vous, quand le pétrole qui était produit dans l'Azerbaïdjan était transporté par des pipelines qui passent par la Tchétchénie, ensuite la mer Noire, il était exporté à travers la mer Noire par la Russie. Alors, quand Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, et quand les Occidentaux ont commencé à chercher des ressources pétrolières et gazières dans la mer Caspienne ici, il y a BP, il y a Exxon, il y a Total qui sont impliqués, et on a trouvé pas mal de gaz et pas mal de pétrole dans la mer Caspienne. Le gouvernement azéri a dit non, moi je ne veux plus passer par la Russie, je préfère passer par la Géorgie, vers la mer Noire et ensuite pour être indépendant en fait de la Russie. Poutine a réagi tout de suite, ça c'était en 2000. Il a fomenté en fait une sorte d'attentat à Moscou à l'époque par le service, par le KGB, qui a tué à peu près 250 personnes à l'époque dans un immeuble à Moscou. Et il a accusé les Tchétchènes d'avoir fait ça. Mais en fait, lui, il voulait tout simplement dire aux Occidentaux, à la société occidentale, vous pouvez toujours passer par la Tchétchénie, je vais pacifier la Tchétchénie. Finalement, il a pacifié en fait la Tchétchénie, il a détruit totalement en 2000, elle a détruit Grozny. Moi, j'ai connu Grozny assez bien parce que j'ai vécu pendant 6 mois là-bas, pendant la période brejnevienne, en 1970. Donc, le pipeline était passé par les Géorgiens ici, et lui, il était furieux. Il ne pouvait pas agir contre les sociétés occidentales qui travaillaient aussi, qui investissaient en Russie à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fomenté en 2000. Le pipeline qui était passé par la Géorgie était terminé fin 2006. En 2008, Poutine a fomenté l'histoire de Ossétie du Sud, ici, et il a attaqué la Géorgie, il a pratiquement coupé la Géorgie en deux, et il a bombardé à plusieurs endroits, juste à côté du pipeline, pour montrer aux Occidentaux qu'il est maître de ce couloir en fait d'acheminement de gaz vers l'Occident. Finalement, il est arrêté, mais il est arrêté toujours à 2 kilomètres de pipeline qui existe. Alors, il y a un pipeline de gaz qui passe par ici, ensuite elle traverse vers la Turquie et elle passe à terre pour rejoindre jusqu'à l'Italie aujourd'hui. Elle a été complétée jusqu'à l'Italie aujourd'hui. L'autre pipeline est un pipeline de l'huile ou de pétrole qui emmène le pétrole à un port pétrolier géorgien et ensuite il est exporté par ici. Alors aussi, Poutine, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il voulait toujours les mers Noires, il a fomenté tous les problèmes de l'Abkhazie ici, qui était une partie en fait de la Géorgie. Et finalement, il a ramassé pratiquement les 2/3 de la côte géorgienne parce qu'il a séparé et il a annexé, entre guillemets, l'Abkhazie, qui devient en fait une partie de la Russie. Il a donné la nationalité russe, exactement ce qu'il fait aujourd'hui. Exactement la même chose. Donc on revient toujours à cette même chose. Il y avait une certaine cohérence dans la stratégie de Poutine, toujours. Bon. Il faut empêcher les autres de passer, il faut forcer autant que possible les gens de transporter leur énergie à travers la Russie. Or, les Occidentaux ont compris. En fait, avec la guerre de l'Ukraine, on va discuter, il a tiré une balle dans le pied. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il ne faut plus traiter avec un gouvernement qui est dirigé par quelqu'un comme Poutine. On va faire tous les moyens en Europe, j'espère, pour échapper au dictat russe.
Ben on en reviendra peut-être justement avec des questions sur ces points-là. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive maintenant à la partie, justement, donc, qui est comment on va sortir de cette crise. Comment, globalement, est-ce qu'on va avoir du gaz cet hiver? Comment on va se débrouiller? Parce qu'on ne peut pas bouleverser donc, un peu nos approvisionnements du jour au lendemain.
Alors, moi, je parle des choses que je connais et ma propre pensée dans cette affaire-là. Il y a énormément d'articles, énormément de rapports qui étaient publiés à droite et à gauche par les journalistes, par la télévision, par l'Europe aussi. Souvent, ce sont des articles relativement contradictoires. Ils n'utilisent pas les mêmes chiffres, ils n'utilisent pas les mêmes stratégies, ou bien ils n'annoncent pas les mêmes stratégies pour des raisons politiques. On va discuter ça après. Alors, pour moi, à court terme, il n'y a pas de solution miracle. Et d'ailleurs, ça a été annoncé tout de suite par le PDG Total, quand on a dit il faut sanctionner la Russie à cause de la guerre en Ukraine. Il a dit, moi, je peux faire quelque chose pour le pétrole, mais je ne peux pas faire quelque chose pour le gaz. Parce que le gaz est quelque chose qui est contracté à long terme, et déjà Total a investi des milliards de dollars dans le développement du gaz en Russie aussi. Donc c'était quelque chose. L'enjeu était énorme pour Total. Mais c'est vrai, on peut faire quelque chose pour le pétrole. On peut toujours augmenter la production du pétrole, et le transport du pétrole est très facile. Par des tankers, il y a des tankers partout, il y a toujours des tankers disponibles. Ils sont tellement disponibles, les tankers de l'huile, ils sont utilisés comme moyen de stockage, parce qu'on n'arrive pas à vendre du pétrole. Donc ce n'est pas un problème. Mais pour le gaz, on ne peut pas. Dès qu'on produit le gaz, il faut qu'il soit transporté, Parce qu'on ne peut pas le stocker. C'est ça le problème, on ne peut pas le stocker.
Mais à la fois, tu dis ça, on ne peut pas le stocker, mais là, on dit qu'on a constitué pour l'hiver 80 ou 90%. Alors, c'est quoi ça?
Ce n'est pas le producteur qui stocke, c'est l'acheteur qui stocke. Et c'est un stock extrêmement limité qui s'appelle un stock stratégique. Normalement, une partie de gaz acheté, il est injecté en fait dans des champs de gaz, de vieux champs de gaz qui sont déplétés, ou bien dans des aquifères, ou bien dans des cavités qui sont fabriquées dans les dômes de sel. Il y a beaucoup de sel dans le nord de l'Europe, surtout en Allemagne. Il y a des couches de sel qui font à peu près 300 à 400 mètres. Alors, on fait des cavités dans ces sels-là, on fait un puits, on fait circuler l'eau douce dans le sel, on fait une cavité. Et après, on déplace l'eau qui est dans le trou et dans le trou qu'on a formé par du gaz, et on stocke du gaz sur une pression de 100 bars ou quelque chose comme ça. Alors, c'est un stock qui est extrêmement limité parce que le stockage de gaz coûte cher, il faut faire des puits, il faut avoir des compresseurs pour comprimer le gaz pour qu'il entre dans la terre, et ensuite il y a une capacité bien déterminée de ces cuves qu'on fabrique ou bien des réservoirs qui sont déplétés. Donc normalement, les réserves stratégiques représentent une consommation dans les pays de 3 mois. Au-delà de 3 mois, il faut refaire le stock de nouveau. Alors, effectivement, avec le stock stratégique en Europe aujourd'hui qui est rempli à 90%, on peut passer l'hiver, mais après l'hiver, il faut faire quelque chose, il faut remplir le stock. Et pour remplir le stock, il faut acheter le gaz quelque part. Donc ce n'est pas un problème facile, donc ce n'est pas une solution. On ne peut pas trouver une solution à court terme. Si Poutine dit « c'est fini, moi je coupe », d'ailleurs il a déjà coupé, il a déjà fabriqué l'astuce pour casser les deux pipelines qui sont dans la mer Baltique. Pourquoi je dis ça? Je suis en train parce que personne essaye de dire c'est la Russie exactement. Parce que Poutine, après cet incident-là, dit à l'Europe, écoutez, moi je peux fournir du gaz à travers Nord Stream 2. Or, Nord Stream 2 était un gazoduc qui n'a pas été validé par les Allemands. Et c'était une manière de forcer les Allemands à valider le pipeline pour qu'ils fournissent en fait du gaz à l'Europe à travers ce pipeline. Dit, je peux le réparer, mais il faut le faire. Mais lui, tout ce qu'il souhaite, il était tellement vexé que l'Allemagne, sous la pression des États-Unis, ne valide pas, en fait, le projet. Et il a tout simplement fait le nécessaire pour couper les deux lignes par une explosion sous la mer. Alors,
la solution, c'est de réduire notre consommation. Il faut serrer la ceinture.
La solution miracle est réduire la consommation. La consommation, si on réduit déjà de 10%, c'est très facile. Bon. Pour le pétrole et pour le gaz. D'abord, l'avantage, en fait, de réduire la consommation, ou bien par l'économie d'énergie, d'abord, on baisse le prix, parce que le prix, quand la demande sur le gaz et le pétrole baisse de 2%, le prix chute à peu près de 30%. L'élasticité de prix est énorme, énorme, dans tout ce qui est produit stratégique. Regardez, si par exemple vous avez un conflit et vous n'avez pas de livraison de pétrole pendant une période déterminée, dans la même journée, le prix chute de 30%. Ça peut, comme dans la guerre de Golfe par exemple, dès que le Koweït a été attaqué, le prix a chuté, a été enlevé de 50%. Tout de suite, montée de 50%. Alors, si les choses s'arrêtent aussi, le prix, pareil. Il ne faut pas oublier qu'en 2020, le baril de pétrole valait quelque chose comme 20 dollars. Et en 2022, c'était à 130. On est arrivé à 130. Remarquez, le prix de 130 en 2002 était le prix qu'on a eu en 1985 aussi.
Revenons au gaz, moi, Frac. Si les particuliers peuvent réduire leur consommation de gaz de 10%, est-ce que les industries peuvent le faire aussi?
Bien sûr. Il faut moderniser un petit peu. Il faut moderniser. Il y a sûrement du gaspillage partout. Le gaspillage est partout dans le monde. Regardez, par exemple, un Américain consomment deux fois plus qu'un Allemand ou bien un Français. Pourquoi? Parce qu'ils ont des voitures absolument énormes, ils ont des maisons chauffées à blanc et ils ne sont pas bien isolés, et ainsi de suite. Et il y a un gaspillage dans l'industrie. Il suffit que les États-Unis, qui est un acteur principal dans le conflit de l'Ukraine, qui coûte d'ailleurs aux taxpayers, aux les gens qui payent les impôts aux États-Unis, beaucoup de choses, parce qu'ils donnent 40 milliards de dollars pour la guerre en Ukraine, pour soutenir en fait l'Ukraine. Il suffit de baisser leur consommation de 10%. 10%, ça suffit. 10%, c'est énorme. Parce qu'en fait, la consommation de gaz aux États-Unis, avec une population moindre que l'Europe occidentale, est deux fois plus que l'Europe. Pareil pour le pétrole.
D'accord, mais nous ne sommes pas aux États-Unis, donc on ne peut pas faire grand-chose. On peut leur conseiller, mais...
Mais il faut négocier avec les États-Unis. Et je vois que les politiciens, personne n'ose en Europe de dire à Biden, écoutez, quand même, vous êtes acteur principal dans la guerre de l'Ukraine. Pour protéger l'Europe et pour vous protéger et réduire les dépenses, faites ça. Mais avec les élections de midterm,
oui, ça m'étonnerait qu'il écoute.
C'est une question extrêmement délicate.
Bon, à moyen terme, diversifier les approvisionnements, c'est possible?
C'est possible. Pour les gaz, c'est pas aussi simple que le pétrole, comme je disais tout à l'heure. Diversifier pour le gaz, il faut investir. Il faut aller chercher le gaz ailleurs. Si on laisse tomber la Russie, il faut absolument aller ailleurs. Où est-ce qu'on peut aller ailleurs? Alors, vous avez tous ces pays-là formidables, vous avez déjà le Proche-Orient, le Qatar. Le Qatar est un pays qui a un potentiel d'exportation de gaz est plus élevé que la Russie aujourd'hui. Simplement parce que en fait, ils ne produisent pas beaucoup parce qu'ils ne peuvent pas vendre de gaz avec un gazoduc. Ils le vendent de gaz liquéfié. Et normalement, c'est dédié, en fait, au marché asiatique. Il y a une partie qui vient, bien sûr, en Europe. Mais l'essentiel de leur production du Qatar va vers la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Alors, on peut faire ça. Mais le problème aujourd'hui, on peut faire un pipeline. C'est pas plus loin que la Sibérie occidentale de l'Europe. On peut passer un pipeline à travers l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie, ensuite, pour rejoindre les réseaux de gazoducs qui passent par la Turquie et qui fournit la Grèce, l'Italie, et qu'on peut mettre dans les réseaux, en fait, européens. Mais le problème, c'est Poutine. Encore. Poutine est en Syrie. Il ne pourra pas. C'est impossible de faire quelque chose à travers la Syrie aujourd'hui, sans la bénédiction de Poutine. C'est impossible. Aussi, pour la Méditerranée orientale, on a découvert pas mal de choses en Israël, en Égypte, et aujourd'hui, on fore d'ailleurs ces totales avec Novatek, avec l'ami de Poutine, qui vont forer au Liban. On a trouvé du gaz, mais on n'arrive pas à acheminer le gaz à travers la Méditerranée orientale, vers la Turquie, pour rejoindre le réseau. Parce que Poutine est là. Il est à Tartous, en Syrie, il y a une base navale. Et il essaye de négocier une base navale avec Chypre, aussi en face, pour bloquer le couloir totalement. D'ailleurs, moi, j'ai écrit un article en 2017, en avril 2017, sur la stratégie de Poutine, en fait, dans cette région-là. Si vous avez le temps, lisez-le. Malheureusement, je n'ai pas pu imprimer une vingtaine de copies de cet article, mais il explique comment, en fait, Poutine fait tout pour essayer de serrer l'Europe totalement avec l'approvisionnement de gaz de chez lui. Bon. Alors, Alors, il y a une possibilité de mettre un pipeline pour ne pas passer par la Syrie vers l'Égypte. L'Égypte, vous avez des installations de liquéfaction de gaz. Aujourd'hui, l'Égypte achète du gaz israélien qui est liquéfié en Égypte. L'Égypte prélève une partie, en fait, du coût. Et ensuite, c'est l'Égypte qui vend du gaz liquéfié. Voilà. On peut utiliser ces... Et pour recevoir le gaz en Europe, on n'a pas beaucoup de problèmes. La capacité de recevoir, de régazification des terminaux en Europe a été utilisée en 2021 à 25%. 25 à 35%. Et l'Espagne qui possède en fait 7 terminaux, les terminaux étaient utilisés à 25%. Et on comprend pourquoi, en fait, aujourd'hui, l'Espagne discute avec la France pour essayer de dire, écoutez, nous, on peut faire lire à partir de l'Espagne, hein, mais la France, finalement, ils ont accepté, l'affaire a été arrangée entre les deux pays. Mais en fait, la France était totalement contre. Parce qu'eux, ils veulent avoir... Parce que la France a, je crois, trois ou quatre terminaux de gazification, deux dans le nord, et, dans le Pas-de-Calais et dans le Havre, et deux sur la Méditerranée.
Je pense, Mouafa, qu'on va bientôt s'arrêter, parce qu'il oui. va y avoir des... Mais j'aurais quand même en fait une... Ouais,
je veux dire simplement un mot.
Alors rapidement, très rapidement. Alors,
rapidement, vous avez énormément de gaz au Turkménistan qui n'a pas beaucoup de marché. Ils ont essayé d'avoir le marché indien, ça n'a pas marché, parce qu'il faut traverser l'Afghanistan. Et pour fournir l'Europe, il faut mettre tout simplement un pipeline pour rejoindre les pipelines qui existent aujourd'hui. Ici, en mer Caspienne, il y a 300 km à traverser. Mais depuis la fin de l'Union soviétique, les acteurs autour de la mer Caspienne sont extrêmement nombreux. Vous avez la Russie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan et l'Iran. Et l'Azerbaïdjan. Donc, la Russie, elle se fie simplement, jusqu'à maintenant, la Russie dit, écoutez, pour des raisons d'environnement et tout ça, on ne peut pas mettre un pipeline ici. Ils ont l'air... Et en fait, ils font un veto contre la pose de pipeline à travers la mer Caspienne ici. Donc, l'affaire est en train d'être discutée depuis des années. Et on pense aujourd'hui, peut-être en 2027, on va arriver à faire quelque chose. Mais le Turkménistan est un acteur extrêmement important parce qu'il possède énormément de gaz. Il utilise peu de gaz eux-mêmes hein, et ils peuvent fournir l'Europe très facilement. L'Iran, ici, l'Iran n'a pas tous les gaz qui est produit en Iran aujourd'hui et utilisé localement. Et pour, en fait, augmenter la capacité de la production, il faut investir. Or, on ne peut pas investir en Iran à cause des sanctions économiques.
Oh, ok.
Et Total voilà. a investi un projet de...
Ce que je te propose, voilà, c'est qu'on s'arrête là. On ne va pas parler du long terme, puisqu'on sait bien qu'avec les objectifs 2050 d'une économie décarbonée, donc le gaz est une solution à moyen terme, mais qu'il va falloir trouver des substituts. Attends, je termine ma question, donc, parce que j'en aurais quand même une. Donc, avec entre le nucléaire, les renouvelables, mais ça ne va pas être le débat, effectivement, donc aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, par exemple, il y a 8 jours, il y avait dans le journal du dimanche, en fait, une pleine page de publicité. Non au gaz russe, oui au gaz vert. Qu'est-ce que c'est le gaz vert?
Moi, je ne connais pas le gaz vert.
Tu ne le connais pas? Mais pourtant, je peux te dire, alors si, il y a justement... Non, le gaz vert, c'est la biomasse.
La biomasse, c'est un epsilon. Epsilon, c'est... Non, attendez, il faut trouver ce genre de solution par les journalistes pour qu'ils fassent un article. Mais c'est absolument épouvantable. Alors, on ne peut pas remplacer...
Non, il n'y a pas d'espoir dans la... Enfin, la biomasse, ce n'est pas...
Que les vaches vont fabriquer de gaz de...
Bon. Oh, ok.
Franchement, ce n'est pas sérieux.
Bah, d'accord. Donc, tu n'y crois pas à la biomasse. Non. Voilà. Ben, écoute, moi, ce que je te propose, peut-être, c'est qu'en fait, on passe...
simplement à... oui. un dernier mot, vraiment, à long terme, nucléaire. Ça, c'est... On va trouver une solution pour l'enfouissement en fait, des déchets nucléaires actifs. Aussi, il ne faut pas que la France hésite d'utiliser en fait, du gaz de schiste. Il y a beaucoup de schiste en France. On l'utilise, on le fort, simplement pour évaluer les réserves et pour savoir on a un stock. Au cas de conditions extrêmes, on peut utiliser ce stock-là. On peut produire du gaz de schiste. Et tout ce bruit sur la fracturation et tout ça, on sait faire. Dans l'industrie de potage. On sait faire pour ne pas polluer en fait, d'autres zones, franchement. Mais ça devient un problème politique, et quand il y a un problème politique, c'est extrêmement difficile à discuter avec les uns et les autres.
Ok, ben merci beaucoup, Mouafak, pour tes explications extrêmement claires. Et donc, je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de questions. Alors.
Tu disais que partie du gaz. Consommé en Europe, était utilisé dans les centrales électriques pour fabriquer de l'électricité. Or, c'est une utilisation extrêmement coûteuse parce que quand on brûle du gaz, 65% de la valeur énergétique du gaz part en chaleur. Et cette chaleur dans ces centrales électriques est dissipée, sauf à être très près des villes et à utiliser pour le chauffage urbain. Donc est-ce que la cogénération distribuée, c'est-à-dire des cogénérations dans des immeubles ou dans des plus petites structures, est une solution possible à la réduction de la consommation de gaz?
Écoutez, d'abord pour le gaz qui est utilisé pour la fabrication d'électricité. Effectivement, le rendement des turbines électriques, il y a pas mal de temps, il y a une trentaine d'années, 40 ans, c'était 35%, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, on fait un double circuit dans le turbine à gaz pour utiliser en fait le gaz qui sort de turbine, de la chaleur, et pour le renvoyer, utiliser comme énergie. Et là, on a augmenté en fait le rendement de ces turbines à peu près à 60%. Donc ça change totalement la donne en fait. Ils sont efficaces. Mais il y a toujours, quand on produit quelque chose, il y a toujours une perte de chaleur, bien sûr. C'est ça le problème de... Même dans les centrales nucléaires, il y a une perte de chaleur. Alors, la solution de mettre, vous dites, des unités...
Oui.
Dans le...
De cogénération, c'est-à-dire une turbine qui fabrique, oui, de la chaleur pour chauffer l'immeuble, oui, et de l'électricité pour injecter dans le réseau.
Je n'ai pas, franchement, je ne peux pas dire grand-chose, je ne connais pas le problème. Pardon.
Et peut-être d'autres...
Franchement, je ne connais pas ce problème-là, mais j'imagine quand même qu'il y a une nuisance terrible à utiliser ça dans tous les immeubles. Et c'est quand même...
Oui, moi j'ai travaillé dans ce domaine, en fait, il y en a quelques-unes.
Je m'occupais de la FEDEN, qui est la Fédération des entreprises énergétiques, qui font ce type de projet. Et donc, effectivement, il y a eu pas mal de projets de cogénération en France. En fait, ces projets se sont en grande partie arrêtés, donc parce que c'était soutenu par des tarifs de rachat électrique qui étaient importants pour les grosses cogénérations. Donc, une grosse partie du parc de cogénération a été arrêtée en France. Et les petites cogénérations, il y a pas mal de projets de Gaz de France qui ont été montés sur ces sujets-là. Mais ça reste un peu, c'est comme le gaz vert, ça reste des solutions qui sont... relativement faible. Mais il y a de la recherche. Par contre, en termes d'innovation, il y a peut-être des possibilités.
Merci, Pascal.
Merci.
Bonjour. Alors, j'avais une question qui n'a rien à voir avec le gaz, quoi qu'un peu. Vous avez porté vos appréciations sur Poutine. Alors, la question que je vous pose, de votre point de vue, est-ce qu'il y a aussi un espoir qu'il y a un changement de régime, d'après vous?
Ça, ce sont les Russes qui décident, hein. Je rappelle, Staline est resté au pouvoir jusqu'au bout. Et les gens croyaient en fait qu'il était absolument formidable. Et moi, j'avais des amis russes, des ingénieurs qui sont plus âgés que moi. Ils disaient quand Poutine est mort en 54, ils sont sortis dans les. Staline est mort en 54, ils sont sortis dans la rue, ils se sentaient orphelins. C'est absolument incroyable. Avec tous les fake news, avec toutes les contre-vérités qui se déchaînent sur les réseaux sociaux, et la coupure, en fait, de la Russie, du monde occidental, ça pose un problème.
Une question un peu subsidiaire. Est-ce qu'on connaît les réserves mondiales de gaz par rapport au pétrole dont on connaît les limites? Est-ce que pour le gaz aussi, on connaît des limites à long terme?
Ah ben, les réserves, en fait, ce qu'on appelle réserve, c'est un mot extrêmement élastique. Quand le prix est très très bas du pétrole et de gaz, les réserves sont moindres. Parce que les réserves, en définition, c'est la quantité de l'huile ou de gaz qui est produite à des conditions économiques de marché. Alors, quand le prix baisse, les réserves baissent. Et quand le prix augmente, on a plus d'argent pour aller chercher et trouver des moyens et investir pour produire. Mais parce que c'est simple, il y a des régions où la production de pétrole et de gaz coûte très très peu cher, comme au Proche-Orient, en Arabie Saoudite, dans le Golfe Persique et tout ça, en Iran. Et dans d'autres pays comme les États-Unis, ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher. Quand le prix baisse en dessous de je crois, 60 dollars le baril ou 55 dollars le baril, eh bien, les sociétés tombent en panne, elles sont en faillite, comme c'était le cas en 2020, pendant le Covid. Il y a la moitié des sociétés qui travaillaient, les petites sociétés américaines, sont tombées en panne. Donc, mais il y a des réserves de gaz. Quand je parle, par exemple, de la Russie, ils ont des réserves à peu près pour les 50 ans qui viennent. Les États-Unis, ils ont des réserves au rythme actuel de la production de à peu près 15 ans, pas plus, hein, de pétrole et de gaz. Les États-Unis, ils n'ont pas beaucoup de choses. Hein. Et ensuite, vous avez le pays comme le Qatar, ils ont des réserves au rythme actuel de leur production de au moins un siècle et demi, 150 ans, 160 ans. Voilà. Alors, et aussi, je n'ai pas parlé de l'Afrique du Nord. Il y avait des pipelines de Libye vers l'Italie. La pipeline ne marche pas. Il faut un jour arrêter ce conflit-là ridicule, hein, pour essayer d'aider le marché européen. On ne peut pas. La Libye est un pays, en fait, qui a le plus de pétrole et de gaz pratiquement en Afrique. Ils ont beaucoup de réserves de pétrole. Et ben, à cause de conflits, ils ont tout coupé. La production est descendue à zéro. Hein. Aujourd'hui, ils produisent la moitié de ce qu'ils doivent produire de pétrole. Mais ils ne produisent plus de gaz.
Et quel rôle
jouent les Russes en Libye, justement? Ah ben justement, lisez l'article que j'ai écrit en avril 2017. J'ai dit Poutine va entrer avec ses services de milices et tout ça en Afrique du Nord. C'était en Libye. Alors, c'était clair. Tout de suite, il a sauté sur l'occasion pour boucler, en fait. Il avait déjà bouclé la Méditerranée orientale. Et ce qu'il souhaite est de boucler aussi la Méditerranée du Sud. Il est déjà en Algérie. Il est très ami avec les Algériens. Les Algériens sont toujours un peu ambigus, en fait, quand il s'agit de l'Europe occidentale. Il est en Libye aujourd'hui, donc c'est un problème. Et à partir de là, il est partout en Afrique de l'Ouest. Alors, ça, c'est un problème immense auquel il faut faire face dans l'avenir.
Alors, si vous voulez lire effectivement cet article assez prophétique de Moifac en 2017, vous donnez vos coordonnées mail et il vous l'enverra. Voilà.
Vous nous avez démontré de façon très convaincante que ça fait pratiquement 20 ans que Poutine mène une action à travers ses guerres en Tchétchénie et en Géorgie qui consiste à prendre en otage l'Occident. Comment se fait-il que depuis 20 ans, que ce soit les compagnies pétrolières, parce que quand Total va investir 12 milliards en Russie, ou les gouvernements, n'aient absolument rien vu? Ça, c'est quand même assez sidérant, parce que votre article, enfin, votre démonstration est quand même invraisemblablement claire.
L'objectif des sociétés pétrolières, c'est un objectif toujours commercial. Hein. C'est tout ce qui les intéresse d'aller investir quelque part, de faire de l'argent et de profit. Une société privée n'est pas là pour aider socialement. Elles peuvent, bien sûr, peuvent faire quelque chose. Mais leur objectif principal, faire de l'argent et faire de profit.
Total, dans ses comptes de cette année, a passé une provision de 4 milliards pour ses investissements en Russie.
Oui.
4 milliards,
oui.
C'est quand même pas rien.
Oui, bien sûr. Oui. Il ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, il ne peut pas laisser tomber leur usine de liquéfaction. Ils possèdent quand même un part important. Ils ont investi 12 milliards dans cette affaire-là. Et c'est le problème, en fait, des politiciens. Ce sont des politiciens qui doivent faire quelque chose. C'est les politiciens qui doivent,
décider. En même temps, quand tu dis que Total investit en Russie, il investit évidemment avec la bénédiction du pouvoir politique. Il ne décide pas tout seul comme entreprise privée.
Parce que le pouvoir politique était naïf toujours de croire que la Russie va fournir de gaz tout le temps à l'Europe. C'est la naïveté, en fait. On a cru dans la bonne volonté de régime russe. Regardez l'histoire de la Russie depuis Ivan le Terrible. Ils n'ont jamais été proches de l'Occident. Et les gens qui disent que Pierre le Grand était proche de l'Occident, ou bien Catherine II, c'est faux. Je suis désolé, c'est faux. Ils voulaient tout simplement être proches de l'Occident pour une partie de leur population de haut niveau, hein, qui était autour des tsars. Et ils voulaient avoir tout simplement accès à la Baltique depuis toujours. Et ensuite, un accès à la technologie en fait occidentale. pour les navires de guerre et pour autre chose. Et c'est pour cette raison-là que Pierre Legrand a passé à peu près un an en Hollande, hein, au XVIIIe siècle.
Monsieur, j'avais une dernière question. On a bien compris que bon, l'hiver prochain, on avait encore des réserves stratégiques. Le nucléaire ne va pas pouvoir monter en charge dans les années qui viennent assez rapidement. Donc il y a un problème de soudure qui va se poser dans les 3-4 années qui viennent. Est-ce que l'approvisionnement en gaz par du gaz de pétrole liquéfié pourra faire la soudure ou pas dans les infrastructures actuelles ?
Non, seul tout de suite non. Parce que franchement, des usines de liquéfaction de gaz pour construire une usine de liquéfaction, il faut 3 à 5 ans. Ça, c'est ça le problème. La Total vient de signer avec le Qatar. Ça coûte à peu près 5 milliards de dollars. Ils vont monter quelques trains, on appelle de liquéfaction de gaz, mais ça sera prêt dans 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Ils viennent de signer. Hein. Mais ça, ce sont les solutions à court terme, à moyen terme. On n'a pas de solution rapide. Ici, la solution rapide, c'est l'économie. Hein. Et il faut appliquer l'économie de guerre. C'est une économie de guerre. Il faut faire face à ça. On est tellement tranquille, on a tellement oublié en fait le conflit en Europe qu'on ne regarde absolument pas ce problème-là. Hein.
Surtout qu'à terme, on est engagé à faire 50% d'économie. Donc c'est juste anticiper, accélérer un mouvement qui est de toute façon nécessaire.
Et en fait, l'économie d'énergie carbonée, c'est ça.
Oui. Et ce conflit est formidable parce qu'il pousse les gens à réfléchir, à faire la recherche, à investir dans d'autres moyens qu'on a oubliés. On a oublié, par exemple, la fusion nucléaire pendant pas mal de temps. La France a démarré dans les années 60, je crois, le CEAD. Mais on a oublié parce qu'il y avait la facilité d'avoir du gaz et du pétrole, très très bon marché.
Voilà, bah écoutez, moi je crois qu'on va s'arrêter là en remerciant beaucoup.